affectés aux salariés. Donc on signe un contrat ouvert dans un certain cadre pour, pendant 8 heures. Lui, il est d'accord pour obéir à des ordres qui lui seront donnés après qu'il a signé le contrat. Ou, évidemment, dans un contrat de vente, bah, il faut spécifier d'une certaine façon, de façon beaucoup plus précise, ce qu'on veut obtenir. Parce que on parle entre deux qui négocient sur le marché. Donc, je te vends quelque chose, bah, il faut savoir ce que je te vends. Donc, le contrat de travail fonctionne bien, et ce qu'il dit Simon, il appelle la théorie des jeux, il dit c'est un jeu à somme non nulle, donc un jeu dans lequel les deux gagnent, hein, si effectivement, on ne sait pas, au moment où on signe le contrat, comment on fera. Mais en fait, il parle du choix du cours d'action qui sera fait par la suite, qui est une sélection de cours d'action, d'une liste prédéterminée de cours d'action. D'accord ? Alors, le problème, donc, on paye comment, quels sont les ordres qu'on va lui donner, enfin, quel est le cours d'action qu'il va faire. Ce cours d'action, on va le réaliser par la suite, hein. Bah, tout ça, ça marche bien pour une organisation dite apprenante. Et puis apprend en faisant des essais par tâtonnement une bonne méthode. Donc, il paye l'apprentissage organisationnel. Le salaire paye aussi cet apprentissage. Alors, le problème, c'est que, justement, ce qu'on a vu, c'est que l'historique, l'apprentissage, dans la production du logiciel, ne nous donne pas des informations pour organiser le cours d'action. En fait, l'apprentissage marche tout le temps et il n'est jamais appliqué en réalité. Enfin, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Parce que ce qu'on a fait dans le passé n'est pas un bon estimateur, enfin, ne donne pas une bonne estimation de ce qu'on va faire dans le futur. Donc, nous passons notre temps à apprendre. Donc, on n'arrive jamais à, comment dirais-je, à solidifier quelque chose, hein, à l'inscrire dans le marbre. Alors, Timon, non seulement, enfin, je dirais, le vente ni le contrat de travail sont adéquats à cette production. Alors, bon, si vous voulez, on a parlé du produit, mais enfin, du processus, on peut parler du produit qui sort. Le produit qui sort, bah, est quelque chose quand même d'étrange, hein, par rapport le logiciel comme marchandise. Bah, comme vous savez, ce logiciel, c'est quoi comme marchandise? Et là, des propriétés, elle est non divisible, enfin, la propriété que les économistes lui reconnaissent, hein, c'est qu'elle est non divisible, c'est-à-dire que son coût de production est indépendant du nombre de consommateurs ou d'utilisateurs, hein, quand vous faites un logiciel qui soit utilisé par une personne ou par 80 millions de personnes comme ceux qui utilisent Windows, c'est pareil, ça vous coûte pareil. Est non rival, c'est-à-dire qu'il ne se consomme pas, hein, dans son utilisation, hein, Windows il ne se consomme pas, il reste toujours là. Et non exclusif. Non exclusif, ça veut dire que il est très difficile, voire impossible, de empêcher quelqu'un de l'utiliser gratuitement. Hein, ce qui est témoigné de ça. Donc, même après cette production qui a tout quelque chose qui doit devenir une marchandise, on a des gros problèmes à la valoriser, c'est-à-dire à réaliser l'échange argent-marchandise pour toutes les raisons que je viens de dire. Hein. Donc, jusqu'où va là je fais. Si on regarde l'exemple, 95% des Windows, des logiciels Windows est piraté. C'est-à-dire, les licences Amazon ne sont pas payées. 95%. Mais d'un autre côté, ça c'est à mon avis, c'est une anecdote pour la fameuse fracture numérique. Les Chinois achètent plus de Windows que de Linux. Achètent plus de Windows piratés que de Linux légal. Parce que Windows piraté arrive sur un seul CD, et le coût du logiciel, elle, ça arrive sur 3 CD normalement. Enfin, donc elle coûte 3 fois. Et donc les gens en Chine achètent Windows piraté. Voilà, ça c'est une bonne explication de ce que c'est une marchandise, comme le logiciel comme marchandise. Alors, en parallèle avec ça, et je vais terminer, oui,
non,
oui.
Non, attends encore 5-6 minutes.
Oui. En parallèle avec ça, et donc je donne la parole après, parce que je ne veux pas.
Je ne veux pas insister sur.
Je parle quand même des logiciels libres, qui est la deuxième partie. Mon camarade va en parler après, certainement d'ailleurs mieux que moi. Pendant qu'il y a cette situation dramatique que je viens de décrire, ben, il y a quand même un développement important de la production du logiciel libre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a des logiciels libres ou ouverts, je ne fais pas la distinction là parce que ça prend trop de temps, comme Linux, Apache, Mayonnaise, etc., qui sont largement diffusibles et nés comme phénomène marginal, comme phénomène sort de Barclay des années 60, enfin d'une certaine façon, quelqu'un qui avait fait les choses au début, etc. Aujourd'hui, Linux, Apache, PHP comme langage de programmation, tout un tas d'autres logiciels sont largement diffusés, je dis bien, dans l'entreprise capitalistique, dans les administrations des États capitalistes. Il n'y a pas d'autres États, hein, évidemment. Mais... Donc, ils sont largement utilisés. L'usage, d'ailleurs, croît. Il n'y a pas que ça. Il y a que, je pense que, comme mon camarade va en parler, il y a même des modèles de business qui se basent sur le logiciel libre. Il, grosso modo, est ouvert et tout le monde y a accès au code source. Je n'ai pas fait cette prémisse. Je pense que vous sachez que c'est un logiciel libre, un logiciel ouvert, open source. Donc, il y a même un business model qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui donc ne vendent pas du logiciel, ils le distribuent, ils le mettent à disposition, et ils vendent les services à valeur ajoutée qui vont avec. Donc elles fournent leur business model, service et pas sous la vente du logiciel. Et puis, comme je vous ai dit au début, il y a des industriels qui font cadeau, comme IBM, hein, qui font cadeau au monde du libre de logiciels sortis de leur laboratoire après des centaines d'années et quand même des centaines de millions de francs, de dollars de dépenses. Alors, je pense que il y a un phénomène important qui est un phénomène de sortie de la production du logiciel du rapport de production capitalistique. Disons, tous les indices vont dans cette direction. Alors vous me direz, mais Microsoft, bah oui. Disons que Microsoft, qui a inventé d'une certaine façon le logiciel comme marchandise, quand elle a commencé à vendre sur les PC IBM son système à l'unité, donc qui a inventé le concept du logiciel comme marchandise. Enfin, la grande idée de Bill Gates, c'était simplement celle-là. IBM voulait lui racheter une fois le logiciel et le mettre sur le PC. Mais comme ça, enfin, sans arrêt penser, simplement parce que c'est comme ça que ça se faisait. Bill Gates a dit non, je ne vous le vends pas d'argent à vous, mais je vous demande de mon logiciel dessus que vous vendez. Et donc là, ça a été la fortune de Microsoft, a commencé comme ça, parce que la vente à l'unité, les PC, puis les PC compatibles, etc. Et c'est comme ça que Microsoft, donc la vente à l'unité du logiciel, vraiment comme une boîte qui est vendue avec. Donc, disons que, grosso modo, comment on explique la situation de Microsoft? Les économistes ont un terme savant qui est les rendements croissants d'adoption. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes habitué, enfin moi, j'ai Windows. Pourquoi j'ai Windows? Parce que je suis habitué à Windows. pourquoi j'utilise Outlook, enfin, parce que je suis habitué, je m'en agenda dessus. Bon, ça, il me faudrait quelques jours, enfin, j'ai un tas de logiciels pour passer, mais j'ai pas le temps. J'ai pas envie de perdre de temps à faire ça, donc je continue par inertie. D'ailleurs, j'ai mon Palme qui, effectivement, c'est un peu, enfin, on m'a fait cadeau d'un Palme, enfin, qui est compatible avec Windows, donc j'ai mon agenda sur le Palme, enfin, tout un tas de trucs qui font. Alors, réinvent croissant d'adoption, c'est un thème seulement pour dire, c'est la question d'un monde. Microsoft te vend un monde. Et tu rentres dans ce monde. Il est difficile d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il est commode. Enfin, pour un tas de raisons. Parce qu'il est fatigant d'en sortir. Alors, ce monde, Microsoft l'a parce qu'il a une position de monopole. Si vous voulez, la conclusion auquel, je dis pas j'arrive à cette conclusion, mais qu'on peut envisager, c'est que la production de logiciels se fait soit de façon monopoliste, soit de façon libre. Alors, effectivement, Microsoft est un capitaliste du logiciel. Il fait du profit.